le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marcilli.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
Et bonjour à tous nos auditeurs. Et merci d'être toujours plus nombreux. Et merci pour vos commentaires constructifs et vos encouragements.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique et de bien d'autres choses. Nous tenterons d'analyser ce que disent l'ascension politique et l'omniprésence médiatique de figures clivantes comme Sandrine Rousseau.
Nous parlerons de la situation d'un pays que nous avons peu évoqué jusqu'à présent, mais important tout de même, l'Allemagne.
Nous reviendrons sur les illusions perdues, tant l'œuvre littéraire que le film.
Et pour terminer, nos coups de cœur de la semaine. Jérémy, un spectre hante la France, le spectre du rousseauisme. Et je ne parle pas là de ce cher Jean-Jacques, même si certaines de ses idées continuent d'avoir une influence. Je parle bien de Sandrine, qui semble avoir pris un leadership intellectuel et qui sait peut-être bientôt politique sur toute une partie de la gauche.
Alors, effectivement, je crois que on ne veut pas particulièrement revenir sur cette figure qui, comme tu le dis, est omniprésente dans le paysage médiatique. Mais je crois que ce sur quoi on voulait s'interroger aujourd'hui et qui anime beaucoup de nos échanges, c'est pourquoi, en fait, dans notre paysage politique aujourd'hui, en France, mais aussi à l'étranger, mais dans notre paysage médiatique en général, on voit l'omniprésence de figures extrêmement clivantes qui développent des visions très manichéennes de la société, quasi idéologiques, parfois voire même quasi totalitaristes, et qui pourtant saturent complètement l'espace politique et semblent connaître une ascension très forte sur le plan politique et dans les structures politiques. Tu as évoqué Sandrine Rousseau en France, il y en a d'autres, ça va bien au-delà des questions de clivage politique. On retrouve des figures similaires à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Au Royaume-Uni, alors c'est différent, mais on a vu une figure aussi comme Liz Truss, qui a pris le contrôle du Parti conservateur dans une bataille du leadership où elle faisait face à quelqu'un de beaucoup plus nuancé, de beaucoup plus modéré, Rishi Sunak, qui essayait finalement d'expliquer un petit peu la complexité du monde, de ne pas arriver avec des solutions simplistes et qui s'est fait balayer lors de l'élection face à Liz Truss. On a vu l'émergence, on en parlait la semaine dernière, d'une Giorgia Meloni en Italie. Et on s'aperçoit donc que toutes les figures qui incarnent une forme de nuance, qui veulent assumer une forme de complexité, qui veulent finalement miser sur l'intelligence des électeurs, la subtilité des situations, sont un petit peu aujourd'hui balayées par notre paysage médiatique et puis ne parviennent pas à percer politiquement. Et donc, en fait, on voulait un petit peu s'interroger sur les raisons de cela. Et peut-être, Romain, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu reviennes un petit peu sur toi qui a une très bonne perception du champ médiatique, sur comment tu expliques le fait qu'aujourd'hui, médiatiquement, ces personnes saturent l'espace.
Alors, bien sûr, étant donné mon métier, tu imagines que je ne vais pas dire que tout cela est de la faute des médias. Je ne le pense pas. Mais on ne peut pas parler de cette question sans parler de ce qui véhicule le discours politique à grande échelle, les médias, et j'inclus bien sûr également les réseaux sociaux. Je crois que nous sous-estimons l'influence de la télé-réalité dans l'élaboration des codes télévisuels depuis environ le début des années 2000. La télé-réalité a établi de nombreux standards de la télévision et de la communication actuelle, et bien sûr pas seulement en politique. Mais tout d'abord, d'un point de vue formel, la télévision, la télé-réalité, c'est un suivi permanent et feuilletonnant du live. Pensons là à la nouvelle importance qu'ont eu les chaînes d'infos et ces directs à rallonge, même parfois lorsqu'il ne se passe pas forcément grand-chose. La télé-réalité, ce sont aussi l'invention du confessionnal télévisuel que l'on retrouve désormais dans énormément de documentaires, y compris dans de bons documentaires politiques que parfois nous avons mentionnés dans nos coups de cœur, ou alors que l'on retrouve aussi dans des émissions dites de flux, mais qui convient des politiques. Par exemple, le succès de l'émission « Une ambition intime » de Karine Le Marchand sur M6, où tu avais des figures politiques de premier plan et même des candidats à la présidentielle qui se livraient à de véritables confessions. Donc, le confessionnal et puis d'autres formats. Sur le fond, ce sont des mécanismes de jeu, de gamification, qui se sont introduits pour favoriser à la fois la narration. Pense par exemple à des émissions politiques comme Des paroles et des actes, qui sont désormais ultra séquencées, avec des invités mystères, des réponses aux questions du public, etc. Et puis, tu as aussi des mécanismes de sélection-élimination, qui en plus ont été renforcés par l'établissement des primaires dans de nombreux partis. Donc ça, c'est pour le format. Et puis, pour le lexical, qui est fondamental en politique, la télé-réalité, c'est la généralisation de ce qu'on appelle le trash talk, c'est-à-dire la démolition de l'adversaire par des insultes, par de la délation, et on a eu un exemple récent en France, et puis, généralement, par toute une culture du clash. Donc, tout ça, ça, bien sûr, c'est le narcissisme et la transparence poussées à leur comble comme résultante.
Alors, quand tu parles de télé-réalité à la base de tout cela, évidemment, moi, la figure qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est Donald Trump, puisque aux États-Unis, il est certes produit de la pop culture, mais c'est quelqu'un qui se fait connaître de tous les ménages américains par une émission de télé-réalité, The Apprentice, et qui ensuite va en fait utiliser ces codes et va être le premier probablement à parfaitement les maîtriser pour bâtir son accession au pouvoir.
Oui, alors il est la figure centrale. Mais je parlais de la télévision, de la télé-réalité en comparaison de la télévision traditionnelle, celle des années 80-90. Mais tu vois, cette télévision des années 80-90, c'était une télévision, si je devais un peu la caricaturer, de paillettes, qui essayait d'injecter de l'optimisme, qui alimentait un rêve de réussite, et notamment de réussite financière. On parlait beaucoup des années fric. Et là-dessus, dans ces formats, le précurseur, le roi des codes de cette télévision-là, très aspirationnelle, on pourrait dire en marketing, eh ben, c'était Silvio Berlusconi. Il a établi des codes et beaucoup se sont inspirés de lui. Et comme tu l'as dit, à l'inverse, le précurseur et le roi des codes de la télé-réalité en politique, eh ben c'est Donald Trump, mais dans un champ symbolique totalement différent. Parce qu'on n'est plus dans le champ de l'aspirationnel, on est dans celui de la détérioration du réel. La phrase de Trump, c'était « you're fired », vous êtes viré. Et dans ce champ-là, le rêve absolu n'est plus forcément celui d'être riche, mais celui d'être connu. Alors, bien sûr, ça peut aller ensemble, mais voilà, c'est pas totalement la même chose. Et puis, en termes de code, tout cela se fait surtout dans l'outrance, la transgression, la cassure totale de la frontière entre la vie privée et la vie publique, puisque le générateur même de la télé-réalité, ce principe générateur, c'est de se mettre à nu en permanence, et parfois au sens propre du terme, puisque en France comme aux États-Unis, certaines stars issues de la télé-réalité le sont devenues avant tout grâce à des sextapes. Donc voilà, c'est un phénomène très fort. Trump en a été le roi. Et puis, et peut-être que je finirai là-dessus, mais tout cela a été permis et renforcé par la montée des réseaux sociaux. Bruno Patino a établi beaucoup de choses fondamentales à ce sujet dans son livre « La civilisation du poisson rouge ». Parce que nous sommes sursaturés de signaux d'information, de notifications, enfin je pense qu'on en a tous l'expérience. Il y a aujourd'hui une bataille pour notre attention. Et tu vois, on estime entre 3 et 5 secondes le temps qu'une vidéo aujourd'hui a pour convaincre. Et comment saisir l'attention ? Eh ben, c'est dans les temps clivants. Parce que les algorithmes de toutes les plateformes sociales favorisent les contenus à fort potentiel d'engagement. Elles poussent d'ailleurs tous les flux qui suscitent le plus d'engagement. Alors, cela peut bien sûr être un engagement positif. Et les réseaux sociaux sont aussi capables du meilleur. Il ne faut pas les caricaturer négativement. Mais quand même, le meilleur moyen de créer l'engagement, c'est malheureusement un engagement négatif, c'est-à-dire en choquant, clivant, en allant sur des positions extrêmes, en fédérant des communautés derrière soi ou contre soi. Je veux dire, le commentaire négatif crée aussi de l'engagement et donc favorise la portée. Et Sandrine Rousseau et beaucoup de noms que tu as indiqués ont parfaitement compris ces mécanismes, ces méthodes, et en jouent beaucoup.
Mais là où il y a quand même quelque chose qui me gêne énormément, c'est que je pense que, à titre personnel, et je pense que c'est le cas de beaucoup de nos auditeurs, sont finalement assez peu présents sur les réseaux sociaux et se plaignent par ailleurs d'un jeu politique où il n'y a que ces figures qui sont extrêmement clivantes, on le disait, qui ont une vision très manichéenne de la société, très intolérante, très souvent par ailleurs, qui n'acceptent jamais le dialogue, jamais le débat, jamais la nuance. Et moi, je crois fondamentalement qu'il y a l'espace pour justement des figures qui, par contraste, élèveraient le débat, seraient plus dans la nuance, et même allons au-delà de ça, ne serait quasiment pas présente sur les réseaux sociaux, parce que je crois qu'il est aujourd'hui très difficile sur un réseau social comme Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux d'avoir une pensée articulée, intelligente, nuancée. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un peu une forme de quasi-dépendance du politique à ces réseaux sociaux. Alors, c'est fascinant, aujourd'hui, quand tu parles à des responsables politiques, y compris à niveau très élevé, des ministres, etc., ils te disent « mais tu n'as pas le choix, il faut être sur les réseaux sociaux ». Ils y consacrent d'ailleurs un temps complètement disproportionné, ce qui pose d'ailleurs une question sur le temps qu'ils consacrent à leur activité politique versus leur activité médiatique. Mais moi, j'ai envie de croire que voilà, il y a aussi une grande partie de nos concitoyens qui finalement se sentent complètement en déconnexion par rapport à cette scène politique et médiatique qui promeut des figures qui finalement ne les représentent pas, n'incarnent pas, à mon avis, moi j'ai, c'est peut-être une vision optimiste, mais moi je crois fondamentalement que nos concitoyens, pour une grande partie d'entre eux, sont beaucoup plus modérés, ont beaucoup plus de bon sens, veulent pas s'enfermer dans des catégories extrêmement manichéennes. Et donc, est-ce que tu penses qu'il y a quand même la possibilité d'une autre voie?
Alors, oui, Jérémy, je suis bien sûr d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est un peu le pari qu'on fait très modestement dans ce podcast, de prendre le temps long, de croire dans le temps long. Moi, c'est aussi, je vais pas parler de slow content, comme certains parlent de slow food, ça fait un peu snob et ridicule, mais c'est aussi un parti pris que j'avais chez Vice. Ceci dit, toi, tu parles du champ politique. Ma première réaction serait de te dire que c'est avant tout aux gens modérés de s'adapter. Et on ne peut pas aller en combat si on refuse le terrain du combat, c'est-à-dire depuis quelques décennies déjà la télévision et puis aujourd'hui les réseaux sociaux, en utilisant les codes et les grammaires de chacune des plateformes. Ceci dit, et là où je te rejoins quand même, c'est qu'il peut bien sûr y avoir d'autres stratégies. Et en t'écoutant, ça m'a fait penser à une série. Je ne sais pas si tu l'as vue, mais c'est une série que moi j'adore, que je trouve formidable, qui est The Young Pope. Sur Canal+. Il y a une scène remarquable dans The Young Pope, durant laquelle le nouveau jeune pape élu, Jude Law, s'entretient avec la directrice de la communication du Vatican, qui est interprétée par Cécile de France. Et Jude Law, donc le pape, lui demande quel est l'écrivain le plus marquant et important depuis quelques décennies. Pas le meilleur, mais le plus marquant. Alors elle essaye de trouver, et puis elle ne trouve pas, et lui dit c'est Salinger. Il lui pose la même question pour le réalisateur, il lui dit Kubrick. Pour la musique électronique, Daft Punk. Et puis pour l'artiste contemporain, il parle de Banksy. Et il lui demande quel est le fil conducteur entre chacun, et le fil rouge entre tous ces personnages ou ces groupes, c'est qu'aucun ne dévoile son image, aucun ne se laisse photographier. Et il dit, sa conclusion, et ce qui est aussi un peu la stratégie de communication qu'il impose à sa directrice, c'est de dire, pour impressionner, nous devons paraître inaccessibles et pour cela, nous devons créer une hyperbole. Et là, en l'occurrence, c'est une hyperbole à l'envers. Donc oui, bien sûr, il peut exister des stratégies de communication, à mon sens, un peu risquées et qui prennent le contre-pied. Mais pas sûr, déjà, premier point, que ce sont celles qui marchent le plus. Tout dépend, bien sûr, de son caractère. Je pense qu'il faut être avant tout authentique. Mais c'est une question qui est d'importance. Parce qu'on pourrait penser que la première vertu du pouvoir, c'est de s'incarner. Et si on est même pascalien, le pouvoir, c'est avant tout l'apparence du pouvoir. Donc c'est une vraie question là-dessous.
Non, c'est fondamental. Alors tu soulignes l'importance de l'authenticité. Je pense qu'il faut aussi faire des choses qui nous ressemblent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de voir comment sur un certain nombre de réseaux sociaux, mais aussi dans une certaine mesure, allons plus loin, des chaînes d'information continues, il est possible de s'élever et il est possible d'élever le débat. Les formats rendent cela très difficile. Mais je trouve qu'il y a une autre question derrière cela. C'est que si aujourd'hui tu as un jeu politique qui te donne une injonction de transparence, une injonction d'omniprésence sur les réseaux sociaux, et donc finalement de t'abaisser constamment dans ta pensée, dans l'impossibilité de nuancer, etc. Le risque, c'est en fait de voir se détourner beaucoup de gens de qualité, de l'engagement politique, et des personnes qui finalement vont aller vers d'autres formes de pouvoir, d'action, d'influence, où il n'y a pas d'injonction d'être présent sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'injonction d'hyper-transparence. Et donc, je trouve que ça contribue, c'est un autre des phénomènes, il y a beaucoup de facteurs, mais qui peuvent contribuer aussi à appauvrir considérablement notre scène politique. Quand tu vois aujourd'hui le paysage politique en France, et on l'a déjà dit, il y a des élus de grande qualité, il y a des gens qui s'engagent notamment sur le terrain qui sont remarquables, mais quand tu vois les figures qui sont mises en avant très souvent par nos médias, qui sont mises en avant par les réseaux sociaux, Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de changer les choses, quelles que soient ses opinions, quelles que soient ses convictions, il se pose quand même sérieusement la question de savoir s'il a du talent, s'il a envie de faire autre chose, si vraiment la politique est la bonne arène pour lui ou pour elle.
Oui, y a un risque en fait de créer une anti-sélection en effrayant beaucoup de profils, et c'est un peu une sélection à l'envers qui est réalisée. Bon, là où tu l'as rappelé, hein, il faut pas non plus salir toute la classe politique. Beaucoup feront, notamment énormément les élus locaux, et sont pas dans la com permanente, même si eux aussi doivent bien évidemment jouer avec les outils de communication, qui sont pas que des outils narcissiques. Hein. Si tu prends par exemple les maires, les réseaux sociaux sont d'excellents moyens de communication, gérés de proximité. Donc voilà, il y a pas que, faudrait pas qu'on pense qu'on croit qu'il y ait que du mauvais dans les réseaux sociaux. Bien évidemment, ça reste quand même une opportunité de transférer beaucoup plus d'informations, d'émotions, de sentiments. Et moi, j'en suis un grand utilisateur, et tu le sais. Donc je suis loin d'être négatif, mais effectivement, il faut voir aussi les effets pervers de ce système.
Alors c'est vrai que aujourd'hui, on voit un paysage politique qui se radicalise, avec des extrêmes de plus en plus présents, pas simplement électoralement, mais aussi, on le disait, médiatiquement. Ce qui pose, moi, je trouve d'ailleurs une question d'une rhétorique quasiment révolutionnaire qu'on voit apparaître un petit peu sur tous les sujets, où finalement, ceux qui essaient d'être modérés, nuancés, sont un peu vus comme des traîtres à la cause. Et on en avait parlé avec Patrice Guénifet. Moi, je trouve qu'il y avait ce roman, Le Docteur Jivago de Pasternak, où on voyait bien le drame des révolutions, c'est qu'en fait, les modérés, les êtres nuancés sont balayés, quelle que soit leur volonté. Mais par contraste, et ça va nous amener finalement par une transition presque peut-être contre-intuitive, on a un autre pays à notre frontière, l'Allemagne, où on a eu un paysage politique, alors qui n'est pas du tout prémuni de tous ses excès, de tous ses défauts, mais on a vu quand même une scène politique plus modérée, plus nuancée. Une dernière campagne allemande, je me rappelle, beaucoup de journalistes français disaient avec justesse que la campagne politique allemande avant les dernières élections en Allemagne était de très bon niveau, que les thématiques étaient abordées, qu'il y avait des débats constructifs, nuancés, etc. Et pourtant, aujourd'hui, on voit une classe politique au pouvoir en Allemagne qui a d'énormes difficultés. On a vu que celle qui a incarné l'Allemagne pendant des années, Angela Merkel, et qui était très appréciée, finalement, a fait des erreurs stratégiques majeures. Bon, la nuance et la modération ne prémunissent pas, évidemment, de toute faute et de toute erreur. Mais je crois qu'on voulait, nous, revenir aujourd'hui sur l'Allemagne, parce que c'est un pays dont on a peu parlé, que c'est un pays qui est souvent un petit peu méconnu, et on échangeait ensemble. Et tu me disais que toi, c'est, par définition, peut-être géographiquement, culturellement, pas un pays avec lequel tu sentais un lien d'affinité culturelle peut-être aussi fort que d'autres, notamment méditerranéens.
Ah oui, j'irais même plus loin. Je pense que l'Allemagne, c'est un pays qui m'est grandement inconnu, même si on m'y a emmené à Berlin il y a 15 jours et que c'était super, mais j'ai très peu d'affinité naturelle avec ce pays. Et puis, tu sais, quand on est méditerranéen, l'Allemagne, on en est finalement assez loin. Et à titre d'exemple, mais je pense c'est assez symbolique, mais quand j'étais au collège et au lycée à Bastia, tu devais avoir, allez, à tout casser, 2-3 élèves qui avaient choisi d'apprendre l'allemand en LV2. Nous étions tous soit en italien, soit en espagnol. Bon, c'est anecdotique. Mais tu vois, le lien à l'Allemagne, le caractère sacro-saint du couple franco-allemand, c'est une réalité qui, sans être niée ni refusée par beaucoup de gens, échappe quand même, on va dire charnellement, à beaucoup de monde en France.
Tout à fait. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très inquiétant, parce que si on prend un petit peu de recul sur le plan historique, on s'aperçoit que quand même un des développements majeurs pour l'Europe au XXe siècle, c'est quand même la réconciliation franco-allemande. C'est quand même la fin de siècles et de siècles de guerres meurtrières entre nos deux pays sous leurs différentes formes. Et je crois que, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on voit encore des sommets de chefs d'État, des discours, parfois, on tente de réactiver un lien au niveau politique, mais dans les faits, sur le terrain, ce lien charnel, ce lien qui unit les peuples, se dissout peu à peu. Je pense que de moins en moins d'élèves étudient l'allemand. Je me rappelle, quand j'étais petit, en Auvergne, il y avait une importance mise sur l'enseignement de l'allemand, il y avait des jumelages, il y avait etc. Tous ces liens se distendent un petit peu, donc il y a une réalité en fait qui se perd. Et le risque, c'est en fait de voir deux pays qui, à un moment donné, parce que cette réalité des liens charnels, humains, entre leurs deux peuples s'éteignent, se dissipent, se dissolvent, bah, ce couple franco-allemand, finalement, ne devient plus que quelque chose que l'on proclame sur le plan politique, mais qui perd de sa réalité. Et puis l'autre chose, c'est que ça s'est conjugué aussi à une perte de sens de l'histoire. Nous deux, on fait partie d'une génération qui n'a pas connu certaines des tragédies du XXe siècle et qui donc, par définition, est moins directement touchée par ce besoin, en fait, de rebâtir un lien avec l'Allemagne. Et donc, je crois qu'il y a quand même quelque chose d'absolument essentiel aujourd'hui. Et c'est d'autant plus important pour moi, à un moment donné où l'Europe, et on en a souvent débattu ensemble, connaît un déplacement de son centre de gravité vers l'Est, que la France et l'Allemagne, qui partagent quand même énormément d'intérêts communs, une compréhension, une connaissance intime de l'histoire ensemble, soient capables de bâtir demain des choses ensemble. C'est aussi une condition, nous, Français, de notre survie dans de l'Europe de demain et de la projection de nos intérêts.
Alors oui, je dirais quand même que tout cela, je comprends que les gens s'éloignent à mesure qu'on s'éloigne de la guerre, mais je pense que cela illustre aussi quand même la faiblesse totale du software allemand. Si on parle de la langue, l'allemand, fait un peu figure de langue régionale comparé à l'espagnol. Beaucoup d'élèves aujourd'hui choisissent l'espagnol, qui est une langue mondiale, ou l'italien, qui est une langue beaucoup plus de niche, mais qui, pour certaines industries, à commencer par l'industrie de la mode, est importante. Quant à l'Allemagne, nous sommes dans une époque où le soft power est très valorisé, où tout ce qui est lifestyle, au sens très large, ça va de la gastronomie, en passant par le design et compagnie, est extrêmement valorisé. Et l'Allemagne, aujourd'hui, sans faire de jugement trop sévère sur la gastronomie allemande, même si j'en pense pas moins, force est de constater qu'elle ne s'est pas forcément beaucoup communiquée sur ce soft power-là. Il y a eu à un moment donné une grande vague de feuilletons allemands. Je parle de soft power dans la culture populaire aussi. Je pense que ça compte beaucoup dans la perception. Et l'Allemagne a, je crois, un déficit que beaucoup de pays qui, par ailleurs, sont beaucoup plus loin et beaucoup plus étrangers à notre culture, je pense même à certains pays asiatiques, comme le Japon, finalement, nous semble créer plus de, on va dire, d'attirance ou d'affinité. Ce qui est toujours surprenant, mais pour en revenir au point central, celui que tu évoquais, je pense qu'il y a, au-delà du soft power, une question que moi, je jauge pas forcément très bien, mais sur la réalité du paysage politique allemand, il y avait effectivement une figure qui avait un leadership fort, qui était adorée, à mon avis, un peu excessivement à gauche comme à droite en France, qui est partie, Angela Merkel. Et aujourd'hui, quelle est la situation ?
Alors, d'abord, sur la question du soft power, moi, je serais un petit peu plus nuancé. Je pense que l'Allemagne a quand même, à un moment donné, même si, et on va revenir dessus dans un instant, elle a été très battue en brèche au cours des derniers mois, notamment depuis le début de du conflit en Ukraine, l'Allemagne a quand même été vue comme un modèle par de nombreux pays européens au cours des dernières années, parce que tu avais la figure de Merkel, qui était quand même la leader naturelle de l'Europe, parce qu'il y avait eu une politique migratoire, alors qu'on peut critiquer, mais qui avait quand même valu sur la scène internationale une reconnaissance très forte de l'Allemagne. C'était un pays qui semblait confiant en lui-même, qui réussissait extrêmement bien sur le plan économique. Tu mentionnais ton séjour récent à Berlin. Berlin incarnait une ville qui donnait une place incroyable à la création artistique, qui attirait de plus en plus d'élites européennes. Donc, il y avait quand même un pays, il y avait même des villes, il y a des villes d'Allemagne de l'Est, Dresde, Leipzig, etc., qui sont également en plein développement. Donc moi, je sous-estimerais pas quand même ce soft power allemand. Et puis deuxièmement, il y a quand même eu des outils qui ont été développés sur le franco-allemand. Souvent, on fait référence dans nos coups de cœur à des documentaires, des films notamment sur Arte, qui est, je trouve, une réalisation absolument extraordinaire, qui incarne justement le soft power, alors là, franco-allemand, dans ce qu'il a, je trouve, de meilleur. Alors ensuite, tu poses une autre question, qui est le paysage politique allemand aujourd'hui. C'est un paysage politique qui est assez compliqué parce que dans les faits, la coalition au pouvoir est en fait assez hétéroclite. Tu as les sociaux-démocrates menés par le chancelier Scholz, mais qui lui-même est à la tête d'un parti qui est divisé entre une aile gauche très très à gauche et lui qui incarne une aile un peu plus centriste, qui par ailleurs a été marqué par cette politique d'ambiguïté à l'égard de la Russie. Tu as les Verts qui finalement s'avèrent plutôt, à la surprise générale, être probablement ceux qui ont le mieux incarné, ils sont le mieux capables d'incarner leurs fonctions respectives dans le gouvernement, notamment Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères allemande, qui, aux yeux de tous, est aujourd'hui une des ministres les plus fortes du gouvernement allemand, mais aussi Robert Habeck, le ministre de l'énergie l'énergie qui s'est imposée dans la crise énergétique allemande comme vraiment une des figures fortes. Et puis, tu as les libéraux, Christian Lindner, qui lui a eu le poste stratégique de ministre des Finances, et lui est plutôt aujourd'hui très critiqué. Donc, tu as ce paysage politique assez morcelé. Et puis, surtout, l'Allemagne est dans une situation très difficile sur la scène internationale parce qu'elle paie aujourd'hui le prix de trois erreurs stratégiques majeures qu'elle a effectuées au cours des deux dernières décennies. La première, c'est qu'elle n'a pas du tout investi dans son outil de défense. Elle s'est uniquement reposée sur la garantie de sécurité américaine. Et donc aujourd'hui, à un moment donné où les menaces sont plus fortes que jamais sur l'Europe et il y a un conflit en Ukraine, elle n'est pas vue comme un partenaire en matière de défense solide, ni par ses alliés européens, ni par l'allié américain. Deuxièmement, elle a bâti sa prospérité sur une ultra-dépendance à l'énergie peu chère russe, et on va revenir dessus dans un instant, mais erreur stratégique majeure. Et puis troisièmement, ses entreprises, son tissu exportateur est surexposé au marché chinois. Et à un moment donné où on est dans une phase de régionalisation de l'économie mondiale, ben évidemment, l'Allemagne a perdu en crédibilité, et surtout son modèle, ce qui a fait sa prospérité, est menacé.
Bien sûr. Sur le soft power, je parlais de soft power populaire auprès des peuples, parce que si on y va par là, c'est aussi, si on parle des 15 dernières années, notamment pour les pays méditerranéens, c'est aussi l'austérité, l'Allemagne. Donc je pense que l'image de l'Allemagne en Europe n'a pas fait des grands bonds, et sur le plan de la culture, voilà, combien de personnes dans nos entourages ont vu des films allemands récemment. Arte est une réussite exceptionnelle, mais pas forcément grâce au contenu allemand. Tu as mentionné ces erreurs-là. Moi, j'ai aussi une impression un peu mitigée. Encore une fois, en disant ça, je veux pas du tout paraître anti-allemand. C'est pas du tout mon propos. Mais sur ce couple franco-allemand qui oscille entre le flou, et tu as raison, il faut le rappeler, c'est alors que c'est une réalité. Et puis parfois aussi entre le flou et donc l'irritant. Irritant quand on se crée l'impression d'un lien exclusif problématique, alors qu'il y a tant de puissances en Europe dont on devrait se rapprocher. Et d'ailleurs, pour revenir sur une dernière discussion, c'est ce en quoi le traité du Quirinal et entre la France de Macron et puis l'impulsion de Draghi en Italie était, à mon avis, vraiment une excellente chose. C'est irritant aussi quand le couple peut donner l'impression d'être un peu déséquilibré. Et tu parlais de crise énergétique. Tu vois, dernièrement, lors d'un discours sur l'énergie, le président Macron a dit, plus ou moins, oui, textuellement, que Fessenheim avait été fermé parce que proche de la frontière avec l'Allemagne, qui est contre le nucléaire, ce qui semble assez lunaire, alors que dans le même temps, l'Allemagne ne se soucie pas du tout d'être frontalière avec la France quand elle ravive le charbon. Voilà, donc ça, c'est beaucoup d'éléments qui donnent à cette relation pourtant importante des caractères parfois irritants pour les opinions publiques.
Alors, plusieurs éléments pour rebondir sur ce que tu viens de dire. D'abord, le couple franco-allemand, il marche quand il n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'une des grandes erreurs, je pense, parfois de la diplomatie française, a été de penser que uniquement parce qu'on arrivait à un accord avec l'Allemagne, on pouvait se prémunir de bâtir des coalitions avec l'Italie, avec l'Espagne, avec la Pologne, avec les autres pays d'Europe de l'Est ou du Nord. Or, moi, je suis persuadé que jusqu'à présent dans l'Union européenne, si on n'a pas un accord franco-allemand, on n'aboutit à rien. Mais un accord franco-allemand aujourd'hui n'est plus suffisant pour aboutir à quelque chose. Et donc, oui, évidemment, il faut qu'on ait une diplomatie européenne qui se repose sur différents piliers, des alliances à travers toute l'Europe, mais in fine, un couple franco-allemand très fort. Et tu poses la question de l'énergie. Le problème, c'est quand il n'y a plus de couple franco-allemand, les deux pays, et notamment l'Allemagne, peuvent s'enfermer dans des solutions nationalistes. Et je vais te donner un exemple très récent. Le 29 septembre, Olaf Scholz a annoncé, à la colère des autres dirigeants européens, que pour tenter de répondre à la crise de l'énergie en Allemagne, il allait mettre 200 milliards d'euros de subventions sur la table. Pourquoi c'est un problème énorme ? C'est un problème énorme parce que c'est des subventions qui vont principalement aller aux entreprises allemandes. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les entreprises allemandes vont finalement être prémunies de la hausse du coût de l'énergie, alors que dans les autres pays européens, les entreprises vont le prendre de plein fouet. Donc il va y avoir une distorsion de concurrence. Ça veut dire que demain, la Syrie, par exemple, en Espagne, ben, elle devra intégrer des coûts de l'énergie extrêmement élevés, là où la Syrie allemande sera protégée par les subventions allemandes. Et donc il y a en fait exactement ce qui est contraire à l'esprit du marché européen, à l'esprit de l'Union européenne, qui est une distorsion de concurrence. Alors quand on dit cela, la réaction des Allemands, et notamment du ministre des Finances Christian Lindner, c'est de dire, écoutez, on a des finances publiques en bon ordre, eh bien, on les utilise, entre guillemets, tant pis pour ceux qui ont des mauvaises finances publiques. Mais là où il y a quand même une forme d'hypocrisie, qui est inadmissible de la part de Berlin et de Lindner sur cette question-là, c'est que, d'abord, si les Allemands ont des finances publiques en si bon état, c'est aussi parce que pendant des années, ils ont sous-investi complètement dans la défense, et ils se sont reposés sur les Français et d'autres pays pour assurer la sécurité du continent européen. Deuxièmement, si aujourd'hui la crise énergétique est tellement importante et impacte tant l'ensemble des pays européens, c'est parce que l'Allemagne, en premier lieu, est devenue ultra dépendante à l'égard de la Russie et que ça donc ça irrigue aujourd'hui l'ensemble des économies européennes. Et donc, c'est vrai que là, ça a valu des condamnations très fortes. Orban, qui n'est pas habitué à la nuance, a parlé de cannibalisme allemand. On a eu des mots à peu près similaires en Pologne. Mais ce sont les Italiens qui ont dit que l'initiative allemande miner le marché commun, les Espagnols ont eu les mêmes termes, et les Français, même si par retenue diplomatique, ont publiquement évité d'avoir ce genre de déclaration, dans les relations bilatérales et dans le secret des chancelleries, il y a eu des déclarations très fortes. Donc aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'une Allemagne qui est en train de se refermer sur elle-même, de n'utiliser l'Union européenne que pour défendre ses seuls intérêts. Là où, et Mario Draghi, malheureusement, est sur le départ, mais à mon avis, Mario Draghi avait une idée beaucoup plus intéressante sur l'énergie, il disait en fait, de la même manière qu'on a apporté une réponse européenne au Covid, il faut apporter une réponse européenne à la crise de l'énergie. Il faut qu'ensemble, on soit capable de mettre un cap sur les prix de l'énergie, et puis aussi qu'on mette en place des dispositifs de subventions au niveau européen. Et je pense que c'est là où d'ailleurs on voit, à mon avis, toute la pertinence de l'Union européenne. Parfois, nos concitoyens, probablement nos auditeurs, se demandent « mais à quoi sert l'Union européenne ?» On avait bien vu qu'au moment du Covid, l'Union européenne avait permis de mettre en place des mécanismes de subvention qui avaient aidé nos entreprises à travers toute l'Europe, qui avaient permis de financer l'assurance chômage à travers toute l'Europe, etc. Et bien, aujourd'hui, plutôt qu'un repli nationaliste extrêmement dangereux et qui mettrait en péril nos économies et nos entreprises, eh ben, il faut bâtir une solution européenne.
Bon, sur le Covid, je vais pas ouvrir un front. Je pense que si la France n'avait pas réussi à, dans une hypothèse où elle n'était pas dans une Union européenne aussi intégrée, à réussir à avoir des vaccins et à financer son système social, c'est à désespérer sur l'état de ce pays. Mais bon, c'est une autre question et je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Il est force de constater que l'Allemagne défend avant tout ses intérêts dans une période comme ça, de crise. Et il y a un autre point qui est quand même assez dramatique dans cette histoire, au-delà des distorsions de concurrence, au-delà des problèmes que cela peut créer sur l'architecture européenne, il y a quand même aussi la question écologique. Je crois qu'il est majeur parce que c'est une énergie sale, bien évidemment, qui, à travers ses subventions, va revenir. Et dans un moment où on parle, à mon avis, de manière un peu trop moraliste de sobriété, on devrait parler plutôt de réalisme et de politique énergétique. Et c'est quand même dramatique que l'Allemagne fasse ce choix qui un peu rend inutile beaucoup d'efforts qui sont faits dans d'autres pays, à commencer par la France.
Oui, tout à fait. Et je crois que tu as raison de le souligner. C'est vrai qu'une des grandes différences aussi entre la France et l'Allemagne, c'est que la France, et pourtant on n'hésite pas parfois à être assez dur sur les choix politiques faits par la France, a sur son mix énergétique fait le choix du nucléaire, qui, à l'époque pourtant, a été moqué par de nombreux pays européens, critiqué extrêmement durement, y compris par les Allemands, mais s'avère être aujourd'hui le bon, au moment où l'Allemagne rouvre des centrales à charbon. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'il faut absolument qu'on réinvestisse le couple franco-allemand, qu'on lui remette de la chair, qu'on remette de l'impulsion politique dedans, parce que plus que jamais, on a quand même besoin d'un couple franco-allemand qui marche, pour aussi une Europe plus forte. Mais Romain, après avoir parlé du couple franco-allemand, nous souhaitions revenir sur une œuvre à laquelle tu avais fait référence il y a quelques épisodes, dans un coup de cœur, c'était « Illusion perdue » de Xavier Giannoli, donc tu avais fait référence au film, mais depuis, tu m'as donné envie de le voir, je l'ai vu.
Est-ce que tu as aimé ?
Alors, j'ai beaucoup aimé le film, je trouve que c'est un très beau film et ça fait honneur au cinéma français. Néanmoins, il y a un personnage que j'ai regretté de ne pas retrouver dans l'œuvre de Gianoli, qui est une figure, moi, qui est probablement celle qui m'a peut-être le plus fasciné dans le roman. C'était la figure de Daniel d'Arthez, qu'on retrouve dans différents passages de la Comédie humaine, mais qui est quelqu'un qui, finalement, par contraste avec Lucien de Rubempré, est un être qui alors a une force de caractère immense. Lui, il vient de sa campagne picarde, il arrive, il vit de manière très modeste, mais il travaille dur. D'ailleurs, la première rencontre entre Rubempré et d'Arthez se déroule à la bibliothèque Sainte-Geneviève. D'Arthez est en train de travailler à ses romans, à ses écrits, et il fait preuve de résilience, de persévérance. Et finalement, il y a un optimisme extraordinaire, là, je trouve, dans l'œuvre de Balzac, qui voulait peut-être être Daniel d'Arthez lui-même. C'est qu'à la fin, Daniel d'Arthez connaîtra le succès, la gloire, l'amour et le bonheur, par contraste avec Lucien de Rubempré. Alors, on retrouve par certains traits la figure de Daniel d'Arthez, dans le personnage de Nathan d'Anastasio, l'écrivain royaliste joué par Xavier Dolan dans le film. Mais moi, je trouve que Daniel d'Arthez, c'est un peu dans l'œuvre de Balzac, toujours la figure à laquelle j'aimerais un jour ressembler, parce que c'est quand même cet homme... pétri de qualité, fidèle en amitié, travailleur, et je trouve que c'est un vrai modèle plus que Rubempré.
Oui, tu as déjà beaucoup de caractère de Daniel d'Arthez, Jérémy.
Quel flatteur.
Non, mais sur il y a un autre personnage d'ailleurs fascinant du livre et de la Comédie humaine qui est absent du film, parce que le film ne traite pas du dernier chapitre d'Illusion perdue, les souffrances de l'inventeur. Ce personnage, c'est Vautrin, ou plus exactement Carlos Herrera, qui sauve Lucien du suicide et puis qui ne va cesser de le manipuler, de lui acheter son âme, et puis c'est ce qu'on verra dans Splendeur et misère des courtisanes. Et Vautrin, tu as parlé des deux modèles, Rubempré, qui est un peu un couillon, hein, même si Oscar Wilde a dit que la mort de Lucien de Rubempré était l'un des grands drames de sa vie, ou même si personnalité politique comme Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, a appelé sa maison d'édition, d'auto-édition, Rubempré. C'est un détail, à mon avis, qui n'est pas inintéressant d'un point de vue psychologique. Mais au-delà de ces deux modèles, donc Rubempré et d'Arthez, tu as Vautrin, qui est un autre modèle finalement d'adaptation ou de réadaptation à Paris. Lui, l'ancien bagnard qui vit sous des identités multiples et qui manipule un peu tout le monde. Donc effectivement, c'est pas un personnage très aspirationnel, pour reprendre ce mot. Mais je trouve que globalement, bon, j'aime beaucoup la Comédie humaine. Je n'ai pas, bien sûr, eu le temps de la lire en entier. C'est l'œuvre d'une vie. Mais je trouve que c'est un peu une constante dans la Comédie humaine, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de personnages dans lesquels on voudrait s'identifier. Il y en a énormément, c'est une galerie de portraits absolument extraordinaire, mais il n'y en a pas énormément, même un Rastignac. Finalement, il y a peut-être le père Goriot, qui par sa bonté est assez admirable, et encore, il y aurait de quoi discuter.
Mais en regardant le film, il y a un sujet, moi, qui m'a passionné, et qui est en filigrane dans le film, c'est le lien très incestueux entre les journaux à l'époque, on est au début du 19e siècle, et puis le monde de l'art, mais aussi le monde de la politique, des affaires, etc. Et en fait, je trouve que la vraie question chez Balzac, c'est est-ce que finalement, ce que décrit Balzac, évidemment dans le cadre du début du 19e siècle, est toujours pertinent aujourd'hui? Et toi, qui viens du monde des médias, ça m'intéresserait d'avoir ton analyse là-dessus.
Finalement, on en a un peu parlé dans notre premier thème. Mais genre, je pense que tout change et rien ne change. Rien ne change fondamentalement, sinon les techniques. Une scène marquante du film, c'est quand le personnage de Singali, ce personnage interprété par Jean-François Sévenin, qui fait et défait les réputations des spectacles avec son armée de siffleurs, applaudisseurs, qui font la claque, en fait, hein, entre en scène. Aujourd'hui, bien évidemment, tu as d'autres systèmes que les tomates lancées plus ou moins automatiquement, mais ce sont des armées de bots sur Internet. Ce sont des armées aussi de followers qui sont chargés par des influenceurs qui également peuvent faire des réputations. Ça vaut pour des spectacles, mais aujourd'hui ça vaut aussi pour des restaurants ou des hôtels. Donc les mêmes mécanismes de manipulation existent toujours. Et si on parle plus précisément des relations entre médias, politiques, milieux financiers, je crois que ces relations presque incestueuses existeront toujours, tout simplement, parce que ce sont des milieux de pouvoir, d'influence et d'argent. Donc, toutes sont quand même liées avant tout au milieu financier. Je crois que quel que soit le régime, quelle que soit la latitude, on retrouve cela, et ce n'est pas populiste de le dire, c'est une constante. C'est ça qui est aussi fascinant dans l'œuvre de Balzac. On pourrait penser que c'était une éternité, c'était il n'y a même pas deux siècles, mais avec des régimes politiques avant une très différents par rapport à aujourd'hui, avant une révolution, enfin plusieurs révolutions industrielles, et finalement on retrouve les mêmes mécanismes. C'est aussi ça qui fait, à mon avis, la force du roman. Jérémy, on a parlé donc de cette œuvre qui nous tient beaucoup à cœur, mais il est temps maintenant de parler des œuvres qui nous tiennent à cœur cette semaine, c'est-à-dire de nos coups de cœur. Et toi, tu voulais évoquer un auteur qu'on apprécie beaucoup, George Orwell.
Oui, tu parlais de la force du roman, cette capacité de l'écriture à durer, demeurer dans sa pertinence, etc. Je pense qu'un écrivain aujourd'hui, évidemment, qui résonne énormément à bien des égards, c'est George Orwell. 1984, La ferme des animaux, Une histoire birmane et bien d'autres textes. Et finalement, il résonne aussi, je pense, par rapport à la première partie de notre discussion aujourd'hui, c'est-à-dire il était tout le contraire du manichéisme, de la vision dépourvue de nuances, de la vision où on caricature constamment son opposant, etc., que l'on observe aujourd'hui dans notre scène politique. Il était le contraire de visions quasi totalitaires qui, aujourd'hui, inondent notre paysage médiatique et saturent notre scène publique. Et donc, c'est effectivement, moi, je trouve un auteur qu'il est malheureusement pas simplement important de relire dans les régimes qui sont aujourd'hui des dictatures ou des régimes totalitaires, mais malheureusement, je crois qu'il est d'une pertinence de plus en plus grande dans notre démocratie. Et je voulais faire référence à un très beau livre, un livre assez court, et publié en 2019 et écrit par Adrien Jolme. Adrien Jolme est grand reporter au Figaro. Et son texte est intitulé « Sur les traces de George Orwell », publié aux éditions des Équateurs. Et en fait, c'est un texte où Adrien Jolme est allé un petit peu dans les pas d'Orwell. Le premier chapitre commence à Eton, donc l'école très prestigieuse au Royaume-Uni, à Windsor, où George Orwell, finalement, pourtant venant d'une famille très modeste, mais était boursier, avait été admis, et a appris, et pourtant c'est une institution souvent critiquée, mais a appris à penser de manière libre. Et puis ensuite, ça nous amène en Birmanie, où Orwell a été pendant quelques années policier dans l'Empire, ce qui lui a valu de nourrir chez lui, finalement, une haine féroce de l'Empire, du colonialisme, qu'on retrouve dans ce texte très beau, Une histoire birmane. Et puis ensuite, on accompagne George Orwell en Espagne, où il s'engage durant la guerre civile, au Royaume-Uni, notamment dans le Grand Manchester, où il vit dans les quartiers extrêmement pauvres, à Paris, et puis finalement, l'île de Jura, en Écosse, où Orwell passa les dernières années de sa vie à Barnhill, une petite ferme qu'il occupa quasiment jusqu'à sa mort en 1950 à Londres. Et je crois qu'il y a une citation que je trouve très belle d'Adrien Jolme dans l'introduction du livre, que j'aimerais juste citer. Jolme écrit « Orwell n'est pas l'écrivain prophétique que l'on décrit souvent. Il ne prévoit pas tout et se trompe même régulièrement. Mais il fait tout pour regarder les choses telles qu'elles sont et non pas comme l'idéologie voudrait qu'elles soient. Plus remarquable encore, cet observateur d'une lancinante lucidité n'est pas un cynique, ni un analyste froid et dépassionné, mais au contraire un témoin qui cherche en permanence à s'impliquer le plus totalement possible dans la réalité. » Et en lisant ça, c'est un éloge évidemment de la nuance, de l'honnêteté intellectuelle, et on parlait tout à l'heure peut-être de la manière dont on doit s'impliquer dans le débat public, et est-ce qu'on doit nécessairement passer par les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de croire que déjà, si on peut essayer de suivre l'exemple d'Orwell, essayer d'avoir la même morale, la même exigence intellectuelle que lui, déjà, on apportera une petite contribution au débat public.
Très bien dit. Moi, Jérémy, je veux te parler de cinéma, avec un film qui m'a beaucoup plu. Je veux parler du film Avec filtre, qui est la traduction extrêmement libre de Triangle of Sadness, qui est Palme d'Or 2022 à Cannes, que l'on peut voir en ce moment au cinéma, et c'est un film du réalisateur suédois Ruben Östlund. C'est un film également qui fait écho à notre premier thème. Moi, malgré quelques longueurs et même parfois quelques lourdeurs, j'ai trouvé ce film brillant et marquant. Il est très difficile d'en parler sans trop divulgâcher, donc je vais essayer d'être, de ne pas faire de spoil. Il commence comme une satire du milieu de la mode, à travers un couple de mannequins influenceurs que l'on suit dans leur environnement naturel, des podiums, des grands restaurants, grands hôtels, tu peux imaginer. Et puis ils vont partir sur une croisière de grand luxe, payé par les posts Instagram de Madame, qui est une puissante influenceuse, et donc les selfies financent la croisière. À bord de cette croisière, il y a beaucoup de personnages excentriques, haut en couleur, un capitaine totalement cinglé, qui est joué par Woody Harrelson, et puis tout va vriller, et c'est là où je ne peux pas en dire plus. Et ce film, je pense, est intéressant dans le cadre de notre discussion, parce que c'est un peu le croisement de Titanic, que j'imagine que tu as vu, et de Parasite, qui était l'excellent film sud-coréen, qui lui aussi avait obtenu la Palme d'Or en 2019. Parce que, comme dans Parasite, ça me fait beaucoup penser à Parasite, plus qu'à Titanic, pour être honnête, à part l'environnement sur une croisière, on alterne entre moments légers, humour potache, humour noir, un peu cynique, études de mœurs, et passages angoissants, un peu en mode thriller. Et surtout, comme dans Parasite, ce film a le mérite de traiter sur un ton original et pas du tout prise de tête, idéologique, etc., d'une thématique essentielle, mais pourtant de plus en plus ignorée, qui est celle de la lutte des classes. Alors, tu me connais, je ne suis pas spécialement marxiste, mais je pense néanmoins que la lutte des classes est un des moteurs essentiels de l'histoire et qu'une grande partie de la gauche a totalement oublié cette question, en même temps qu'elle a oublié le peuple, obsédé désormais par les questions identitaires du genre et de la race, et ça fait aussi écho à ce que tu viens de dire sur Orwell. Or, cette lutte des classes reste non seulement une question politique clé, ainsi qu'un ingrédient narratif puissant, chez Balzac aussi, lorsque cela est traité avec recul et talent, ce qui est fait dans ce film. Donc c'est un film à la fois caustique, déjanté, c'est une très belle réussite que je conseille, tout en conseillant également de ne pas voir ce film après un repas trop copieux. Voilà, vous me comprendrez quand vous le verrez.
Merci beaucoup Romain, tu m'as donné envie de le regarder, peut-être qu'on en reparlera dans un autre épisode. C'est terminé pour cette semaine. Merci beaucoup Romain, et à la semaine prochaine.
Merci Jérémy, à la semaine prochaine.